Je suis un bohème de la science. Aucune autorité académique ou politique n'a jamais pris mon travail en considération. De quoi ne m'a-t-on pas accusé ? De fascination pour le grondement du génie des ténèbres ? D'exorcisme ? J'ai été la risée de la science académique et de l'orthodoxie régnante. Il est vrai que je fracassais quelques mythes choyés par les plus beaux esprits. Non, messieurs, l'histoire de France ne commence pas avec les campagnes de Jules César. Hélas, malgré mon intuition, je n'ai pas encore trouvé, lors de mes nombreuses fouilles des terrasses de la Somme, l'homme fossile. Mais en découvrant ses œuvres, j'ai fait reconnaître la preuve de son existence. Le premier, j'ai distingué les pierres brutes, des silex taillés, eux-mêmes antérieurs aux silex polis. En faisant agréer la majeure partie de mes collections, des milliers de pièces, c'est l'acceptation de la préhistoire que j'ai réussi à imposer, après de longs combats, aux plus savantes autorités. C'était sans doute trop peu pour l'Académie des sciences, qui mettra 20 ans à reconnaître mes travaux.
Pourtant, dès 1846, il a publié un livre, « De l'industrie primitive », réédité sous un titre plus accrocheur, « Antiquités celtiques et antédiluviennes ». Ceux qui l'ont lu ne l'ont fait que pour dire que l'auteur est un fou. Selon eux, il faut l'être pour prétendre qu'il y avait des hommes avant les Assyriens et des monuments avant ceux de Babylone, bref, que l'homme ne serait pas né d'hier.
Je fais l'hypothèse que l'homme antédiluvien différait physiquement de l'homme actuel et qu'il devait ressembler aux races noires ou cuivrées. Ah, qu'une vérité est dure à faire avaler aux savants. Il semble toujours craindre qu'il y en ait trop, comme si c'était chose si commune dans ce bas monde adorateur du mensonge. Dois-je rappeler la longue liste de mes humiliations ? Plutôt celle infinie des jalousies et des incompétences ?
Lettre de Boucher de Perthes à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Abbeville, 31 juillet 1847.
Je viens d'envoyer au secrétariat de l'Institut une petite caisse contenant des échantillons des terrains diluviens de nos environs et une vingtaine de silex travaillés de main d'homme, trouvés dans ces terrains au-dessous des ossements fossiles d'éléphants, de rhinocéros et d'autres animaux d'espèces éteintes. Ceci, je l'espère, déterminera la commission dont vous faites partie à venir à Abbeville, où je serai heureux de la recevoir. La question est importante, et je l'ai nettement posée dans mon livre de l'industrie primitive, dont je vous ai remis un exemplaire. Que l'on trouve des ouvrages d'hommes dans les terrains diluviens, c'est ce qui est indubitable. Et l'examen des morceaux que j'envoie, encore entourés de leurs gangs, suffirait seul à le prouver. Qu'en outre, sur ces armes et ustensiles de pierre, on recueille des signes purement symboliques, des figures grossières d'hommes et d'animaux, c'est également vrai. Pourtant, la chose sera plus contestée, car il s'agit rien moins que de la langue hiéroglyphique primitive et des types de ces monuments dits à tort celtiques ou druidiques et qui, si je ne me trompe, doivent sinon tous, du moins beaucoup, être plus anciens et remonter au premier temps de la population des Gaules. Si la commission voulait venir examiner les lieux et les objets que j'y ai découverts, peu d'heures lui suffiraient pour que son opinion fût fixée. Elle pourrait nommer cette science nouvelle « archéogéologie ».
Le prince Albert Ier de Monaco est au départ un de ces amateurs éclairés. Il tient un rôle décisif dans la phase de transition menant de l'anthropologie humaine des fouilles de hasard à sa période scientifique.
Je me souviens de mon émotion à la découverte des relevés des peintures pariétales d'Altamira, réalisées par Breuil et Cartaillac. C'était en 1903. Ils revenaient d'Espagne avec dans leur carton de formidables dessins d'un incroyable bestiaire polychrome. Je vous avoue que ce fut pour moi un vrai choc, intellectuel et esthétique. J'ai eu la chance de connaître leur travail au moment où ils cherchaient un moyen pour financer la publication de leur relevé. Le coût était important, mais ils m'ont convaincu de l'origine primitive des grottes ornées. Je décidai de leur apporter mon aide.
Assez d'esthétique et de métaphysique. Revenons à des choses concrètes. Comment protéger les champs de fouilles de tous ces amateurs avides et maladroits ? On voit des horreurs. Mais les fouilleurs locaux veulent garder leur liberté et redoutent un contrôle de l'État.
En 1891, Boulle visite la grotte du Mas d'Asile. Il en revient choqué. Bien que Monsieur Piette ait le droit exclusif de faire des fouilles en ce lieu, des amateurs peu scrupuleux viennent parfois en hâte saccager une partie des bonnes couches pour ne recueillir que quelques harpons ou des galets. Peu de jours avant mon arrivée, un talus a été éventré alors que Piette venait juste de le dégager pour établir la coupe du dépôt en ce point. En examinant les divers os jetés de côté par ce malfaiteur, nous avons reconnu des débris humains. Il y avait là un squelette dont nous n'avons pu sauver qu'une faible partie. Des os longs, un péroné presque complet. Notre regret a été d'autant plus grand que ces os sont peints en rouge.
Bien sûr, chaque excursionniste choisit son coin et avec des outils de fortune entame le talus. Chacun travaille pour son compte et pour ses collections. Il faut absolument préserver ces sites, éviter les investigations désordonnées et les pillages. Ces restes préhistoriques font partie de notre patrimoine.
Pas question. Nous, les sociétés savantes locales, sommes vigoureusement opposés à de tels projets. Il ne faut pas oublier que toutes les découvertes qui ont été faites l'ont été par des amateurs éclairés, que vous qualifiez de façon méprisante de fouilleurs de hasard. Nous refusons totalement le jacobinisme appliqué à la science.
Les amateurs ne sont pas les seules menaces. Cartaillac exprime l'avis général en ce début du XXe siècle, lorsqu'il dit « Les archéologues ont détruit à eux seuls plus d'ossements que les agents naturels et que les ouvriers des champs. On est vraiment stupéfait de ne trouver au muséum et dans nos collections qu'une si faible quantité de pièces en bon état et de provenance sûre. » À l'évidence, des mesures de protection s'imposent.
Non. Vous voulez assurer le monopole de quelques scientifiques officiels et l'accaparement de nos pièces par les musées nationaux. Cette volonté de mainmise sur nos découvertes par l'État et les institutions parisiennes est insupportable.
Ne dramatisez pas. Il faut seulement assurer la protection des mégalithes, des grottes, des murs d'enceinte et de tous les emplacements où l'activité humaine a laissé des traces dans le sol.
D'autant que les étrangers, tels ce monsieur Hauser, ne se privent pas de piller notre patrimoine. Hâtons-nous, si nous voulons conserver ce qui reste de notre plus lointain passé. Il est inadmissible de voir l'intérêt de la science française mis en échec autant par la passivité de l'administration que par la mauvaise volonté des particuliers.
Dites plutôt que vous voulez tuer l'émulation scientifique des savants amateurs. Comment peuvent-ils être motivés à mener un travail aussi ingrat si chaque fois qu'il devient intéressant, le produit des fouilles leur est retiré ?
Le projet de loi récemment préparé par la Commission des monuments historiques prévoit une déclaration du fouilleur pour chaque nouvelle investigation, un droit de préemption de l'État sur les objets découverts et une surveillance des sites.
C'est donc bien une police scientifique que vous voulez imposer, avec la création d'un corps d'inspecteurs officiels, encore des nouveaux fonctionnaires, des gendarmes de la science. Il est hors de question d'accepter le contrôle de Missi Dominici, chargé de centraliser le patrimoine artistique des provinces. Ce qui importe, ce sont les conclusions scientifiques des fouilles, et pas l'intérêt du collectionneur, fût-il l'État.
Il est vrai que des exemples récents ont prouvé que les fouilles officielles n'ont pas beaucoup servi à l'avancement de la science. Leurs résultats sont restés jusqu'ici ignorés, en particulier des sociétés locales.
Un projet de loi est finalement déposé en octobre 1910. Il n'aboutira pas.
Que de controverses, Monseigneur. Scientifiques, nationalistes et religieuses, tous ces vacarmes ne désespèrent-ils pas votre Altesse ?
Bien au contraire, j'aime ce genre de défi.
Les besoins sont considérables, mais ne craignez-vous pas que tous ces affrontements entravent la connaissance ?
Justement, c'est la meilleure période. Peu de choses sont en place, et beaucoup de ces savoirs restent encore étranges. Les idées des scientifiques sont à la merci d'un coup de pioche. L'anthropologie humaine est en train de découvrir la profondeur du temps. Elle s'élabore dans un grand chaudron désordonné. Le moment est idéal pour lui donner quelques repères fondamentaux. Je ne veux pas imposer une nouvelle école savante. Je veux simplement rassembler les meilleurs chercheurs et leur donner les moyens de travailler et de coopérer en paix. J'ai soumis cette idée à Marcelin Boule et à Henri Breuil qui m'ont donné leur accord. Nous allons créer ensemble le premier institut de paléontologie humaine.